Bonsoir à toutes et à tous, et bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar, générique.
Opus, Festival international de musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissin. Une émission d'Accent 4, en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar, et avec le soutien du CICS d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
D'être fidèle à Accent 4, partenaire du Festival de musique de Colmar. Aujourd'hui, mes invités sont au nombre de trois, puisqu'il s'agit des membres du trio Chausson. J'ai nommé Boris Delaroche-Lambert, piano, Antoine Landowski, violoncelle, et Léon Schreiber, violon. Le trio Chausson se produisait ce midi au Koifus dans un programme Haydn, Chaminade, Wagner et Ravel. On y reviendra bien évidemment. Quels sont les concerts de cette journée du 7 juillet? Eh bien, à l'heure où sera diffusée cette émission, Jonas Vito, violon, et Victor-Julien Laferrière seront à la chapelle Saint-Pierre et interpréteront des œuvres de Beethoven, Poulenc, Janáček et Rachmaninov. Et à 21h, à l'église Saint-Mathieu, musique de chambre avec à nouveau Martha Argerich, Misha Maïevski, Vladimir Spivakov et deux musiciens de l'Orchestre National Philharmonique de Russie au programme Beethoven, Debussy, Franck et Prokofiev.
Thank you.
Nous écoutions la première des cinq pièces dans le ton populaire pour piano et violoncelle, opus 102 de Robert Schumann, par Micha Majewski et Martha Argerich. Les deux interprètes seront donc tout à l'heure à 21h sur la scène de l'église Saint-Mathieu pour un concert qui devrait faire date dans cette édition du Festival de musique de Colmar qui rend hommage, comme vous le savez, à Evgeny Kissin. Vous avez rencontré Evgeny Kissin un jour ou l'autre, ou en tout cas, vous l'avez entendu en concert, Maurice?
Oui, bonjour. Je crois que je l'ai rencontré d'abord il y a très longtemps, en 1994, quand il est venu justement donner un concert au Festival de Colmar. Et voilà, je suis allé le voir à la fin, essayer de dire quelques mots dans une langue qu'il comprenne. Et c'était un magnifique concert. Et puis plus tard, je l'ai rencontré par notre agent, je crois.
Nous avons le même
agent.
Et vous, Léonard? Et non pas Léon, comme je...
Mais c'est très bien, Léon. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je suis très content que vous m'appelez Léon. Non, je ne le connais pas personnellement. Je l'ai entendu plein de fois en concert, mais je suis ravi de... Enfin, j'espère qu'on aura l'occasion de le rencontrer ce soir, après son concert de ce soir.
Antoine?
Et non, je n'ai pas eu cette chance de lui serrer la main et d'échanger avec lui.
Et Martha Argerich, qui est une autre figure emblématique du piano.
Vous me collez une deuxième fois, je n'ai pas eu cette chance-là de rencontrer Martha Argerich.
D'entendre jouer en concert, en tout cas.
Oui, bien entendu. Oui, oui, oui.
Bien, Boris, moi je vous connais depuis quelques années, puisque vous avez été élève au Conservatoire de Strasbourg, et vous formiez avec un duo avec un pianiste, Olivier Cangelosi. Vous vous souvenez de ces années?
Ah oui, très bien. C'est avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, parce que c'était des années de découverte de la musique de chambre en général, et je pense que j'ai découvert pratiquement en même temps le plaisir de jouer à deux pianos et le plaisir de jouer en trio. Ça a toujours été les deux axes de ma pratique de musicien de chambre. Et voilà, alors depuis très longtemps maintenant, c'est décidé pour moi, hein, c'est le trio à 100%. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de bonheur dans ces années-là, et en particulier de jouer avec Olivier.
Et vous n'avez pas gagné un concours ou jouer avec orchestre?
Jouer avec orchestre, oui, dans une symphonie de Saint-Saëns, et on avait joué la sonate de Bartok à deux pianos-percussions, mais pas d'autre chose.
Olivier avait été invité à jouer les variations symphoniques de Franck avec l'Orchestre Harmonique de Strasbourg, et dirigé à l'époque par Yann Latham-König. Antoine, alors vous avez un lien de parenté avec Marcel Landowski.
Paraît-il. C'est ce qu'on me dit depuis ma naissance.
Oui, c'est vrai que vous n'avez pas pu vérifier.
Oui, en effet, Marcel Landowski était mon grand-père. Voilà, donc il y a le gène musical a sauté une génération, parce que je suis le seul petit enfant à avoir fait de la musique. Et mon père et mes deux tantes n'ont pas fait de musique. Voilà, ils ont travaillé dans le domaine artistique, mais j'étais le seul à faire de la musique.
Marcel Landowski, à qui l'on doit l'organisation de la musique en France, de la vie musicale en France, avec André Malraux.
Entre autres, oui, tout à fait. Il avait été appelé par André Malraux comme premier directeur de la musique. Et Malraux lui avait confié la grande tâche à l'époque, de construire et reconstruire la vie musicale. Donc si aujourd'hui il y a des orchestres nationaux, s'il y a des conservatoires, c'est en effet en partie grâce à mon grand-père.
Alors Boris, avec Antoine, vous avez fondé ce trio Chausson, dont le nom, donne d'emblée l'idée du répertoire que vous défendez depuis sa création.
Oui, alors du répertoire en partie, et peut-être de l'idée du rapport à l'art, parce que Chausson nous a séduit dès le début à cause de ses qualités de compositeur. C'est l'une des premières œuvres qu'on a jouées ensemble, hein, le poème, le concert de Chausson, le trio. Mais il y avait aussi une question de rapport au monde musical, à la création, et de tempérament, simplement, puisque Chausson était quelqu'un, je trouve, d'admirable, qui créait des sociétés par lesquels il faisait jouer ses contemporains, ses concurrents, ses professeurs, etc. Donc il a beaucoup contribué à la vie musicale de son époque et a encouragé et soutenu énormément de monde. Et de la part de
Saint-Saëns.
Oui, et de la part de quelqu'un qui est en plus ouvert à tous les arts, puisque lui-même a hésité longtemps à choisir la musique. Il était aussi doué pour la peinture et la littérature.
Et Léonard, vous, en 2015, vous rejoignez le trio, vous succédez à Philippe Talec, qui est aussi le troisième membre de fondateur. Comment s'insère-t-on dans une équipe déjà constituée ?
Très bonne question. En général, c'est pas facile, et là, je pense que ça s'est fait de manière très, très naturelle. Il n'y a pas eu de questions. Voilà, j'étais, nous avions aussi cette même agence à Paris, la production Sarfati, Marina Boer, qui nous a mis en relation. À la base, au départ, on s'est rencontrés pour un concert à la Folle Journée de Nantes. C'était peut-être un essai, en tout cas, j'étais pas au courant. Et puis, ça s'est si bien passé, on s'est tout de suite très bien entendu, et en fait, il n'y avait pas eu de questions. C'était très.
Je dirais que ce genre de rencontre, il faut que ça soit naturel. Si on sent qu'il y a des complications d'entente ou de, à ce moment-là, on peut se dire que on n'est pas fait pour travailler ensemble. Mais si dès le début les connexions se font naturellement, voilà, on ne se pose pas de questions. On est comme dit Léo et les choses se font telles quelles.
Quels ont été vos modèles en matière de trio? Il y a bien sûr le trio Wanderer, mais il y en a d'autres. On pourrait penser à Thibaut Casals, Corto.
Je suis en train de chercher.
Il y a un trio allemand au début. Parce que dans notre formation pédagogique, on a beaucoup travaillé avec Hatto Bayerle, qui est l'altiste membre fondateur du quatuor Albenberg, et qui voilà, nous a donné beaucoup de cours et de leçons sur la musique classique avec Haydn, Beethoven, Mozart. Et il avait lui-même formé un trio qui s'appelle le trio Jean-Paul, un trio allemand. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, à ce moment-là, on l'a beaucoup écouté, surtout en ce qui concerne la rhétorique musicale. Mmh. Et je pense que ça a été un de nos... Je ne sais pas si on peut parler de modèle, mais en tout cas, on s'est beaucoup inspiré de ce trio.
Si je peux me permettre, moi, il y a énormément de quatuors que j'adore, de quatuors à cordes. En trio, je ne sais pas si Antoine et Boris seront d'accord avec mon goût, j'aime le trio qui est peut-être le moins... un vrai trio de musique de chambre. J'adore Yasha Heifetz, Rubinstein et Piatigorsky. Alors je suis sûr que Boris Antoine, il y a des choses que vous aimez aussi. Moi je les adore parce que je trouve que il y a dans chaque enregistrement, c'est vrai que c'est tout à fait personnel comme façon de jouer, mais c'est tellement je sais pas, c'est quoi qu'il fasse, j'écoute ça avec bonheur, et donc ça me donne envie de jouer les œuvres qu'ils jouent. Alors, je sais pas vous, Antoine et Boris, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, c'est passionnant.
Moi, j'irais de la
question piège. Là.
tu te transformes en journaliste. pour moi, d'un point de vue historique, c'est très intéressant. Mais ce ne sont pas en tout cas des interprétations aujourd'hui qui m'inspirent. Voilà, mais en effet, elles sont très très intéressantes.
Pour différentes raisons, je pense que tu veux dire. Il y a d'autres choses inspirantes dans leur jeu.
Le trio que vous citez, Léonard, c'était le trio aussi appelé le trio à 1 million de dollars.
Exactement.
c'est pour ça qu'il t'inspire, Léo,
je
ce trio.
Je pense que c'est ça, oui.
Absolument pas. Alors là, tu me fais très mauvaise réputation. Je décline toute responsabilité dans cette interview.
En tout cas, moi, j'ai hésité pour la programmation musicale entre Rubinstein, Heifetz et Piatigorsky et le trio Corto, Casals, Thibaut. On va écouter ce trio dans Haydn.
Génial.
Et puis
aussi.
Vous allez me donner vos impressions. On écoute. Thank you. Écoutions Alfred Cortot, Jacques Thibault et Pau Casals dans le final du trio en sol majeur opus 73 numéro 2 de Joseph Haydn. Alors messieurs, comment entendez-vous cette manière de jouer Haydn, Léonard ?
Oh, pourquoi moi en premier ? Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très fin, c'est très élégant. La prise de son est peut-être pas tout à fait... Enfin, ne justifie peut-être pas... ne rend pas la... hommage au son des trois de manière assez...
C'est la fin des années 20. Hein.
Voilà, exactement. Donc je pense qu'en live, ça devait être plus poignant. Mais mordant. Là, comme ça, ça, on a l'impression que ça a l'air gentil, or que je pense qu'il y a quand même du caractère derrière ça. Donc voilà, mais je pense que Reifetz, qui n'était pas tellement d'années après, si, bien sûr, mais où les enregistrements étaient aussi anciens, lui, il exigeait que le micro soit pratiquement sur son violon. Et il y a d'ailleurs une anecdote, si je peux me permettre de le raconter très rapidement, où à un enregistrement, il jouait avec Piatigorsky et Rubinstein, et ils n'avaient pas beaucoup répété ce jour-là, et Reifetz, comme toujours, très sûr de lui, il jouait très fort, et apparemment c'était si fort qu'il y avait comme ça le son de l'archet sur les cordes, et les deux autres ont dit « mais c'était une catastrophe, on peut pas, bon, il faut qu'on le refasse », et il lui a dit « non, c'était très bien, je suis content ». Et là, ils ont dit « bon, mais non, mais tu grattais là tout le temps ». Ben non, ils sont allés écouter ensuite à l'arrière dans le studio pour voir. Et le violon chantait, c'était magnifique apparemment. C'est l'histoire qui raconte ça. Alors, c'est les profs de violon peut-être qui disent ça au violoniste. Mais voilà.
Où il avait une très bonne connaissance des techniques d'enregistrement.
Exactement.
Un petit peu comme Cortot d'ailleurs.
Absolument.
Parce que Cortot, qui est un génie musical absolu et que j'admire beaucoup, avait quand même une science de ce qui pouvait disparaître furtivement comme ça dans un enregistrement et donc qui n'avait pas nécessairement besoin d'être joué jusqu'au bout.
Il s'enregistrait presque tous les jours lui-même pour s'entraîner Yasha Reifetz. Donc il avait déjà cette... il comprenait l'importance de s'écouter parce que quand on joue au violon, au violoncelle aussi, le chant encore plus, on ne s'entend pas réellement. Enfin, on n'entend pas ce que le public entendra. Le piano peut être un petit peu plus objectif parce qu'il y a déjà un peu de distance, mais je pense que c'est vraiment important pour les instruments à cordes de s'enregistrer et puis s'écouter.
Antoine ?
Par rapport à cet enregistrement ?
Oui, et puis par rapport à ce que vient de dire Léonard.
Oui, en effet, c'est vrai que c'est quelque chose que la technologie nous a apporté ces dernières années. Boris, lui qui est un grand spécialiste de tout ce qui est technique, enregistre tous nos concerts. Et après, on fait un débrief de toutes les pièces que nous avons jouées pour... les améliorer les concerts après concert et c'est vrai que c'est vraiment très utile pour la progression. Et pour revenir sur l'enregistrement, je trouve que vous disiez que c'était l'époque où on avait redécouvert les trios de Haydn et leur interprétation quand même est très moderne par rapport à par à ce qu'on pouvait faire dans les pièces comme du Bach où on enregistrait déjà où on les jouait assez romantiques, même très romantiques, et là il y a quand même une reconnaissance du style classique qui est vraiment très présente. Et donc c'est vraiment très intéressant et ça prouve donc l'intelligence et le génie de ces trois interprètes.
Et on n'est pas dans quelque chose de sévère et monolithique ou impérieux comme ça pouvait l'être souvent à l'époque. Il y a une souplesse et presque une poésie, une nonchalance qui est très agréable.
Alors c'est vrai qu'ils vont pas à fond dans le style tzigane parce que qui est demandé par Haydn, mais je pense que peut-être à ce moment-là ils ne se le permettaient pas parce qu'ils étaient peut-être encore dans la découverte de la partition et voilà. Mais c'est une très belle un très beau disque, très belle interprétation.
On va reparler de Haydn dans quelques minutes, mais aujourd'hui, à 12h30, au Cueil-Fuse, vous avez joué aussi deux transcriptions, la transcription de la mort d'Isolde de Richard Wagner et la transcription de la valse de Ravel. Et c'est vous, Boris, qui vous êtes attelé à ces transcriptions.
Oui, c'est vrai.
On le surnomme Boris Ravel.
On n'y est pour rien, c'est lui fautif. S'il faut le mettre en prison, c'est lui, c'est pas nous.
toutes les réclamations, c'est pour moi. Donc oui, j'ai attrapé le virus de la transcription il y a bien 10-15 ans maintenant. Et c'est quelque chose qui me passionne. Alors, pourquoi spécifiquement c'est simplement que... En fait, le répertoire de trio est très vaste.
En fait, Boris est un grand frustré, parce qu'il aurait voulu être un orchestre à lui tout seul. Voilà.
C'est vrai que souvent, tu joues comme un orchestre. On a le sentiment, d'après les œuvres, qu'il se dirige, il y a un sentiment de... Il ne joue pas du piano, il y en a beaucoup qui jouent du piano.
Écoute, c'est gentil. Je pense qu'effectivement, on devrait essayer de... Quelque part, hein, ça dépend des compositeurs, mais en majeure partie, d'avoir un orchestre au moins en tête. Et alors, comme je le disais, donc il y a des trous dans le répertoire du trio qu'il est toujours agréable de venir combler pour s'offrir ses propres transcriptions, en fait.
Et pour la valse, vous êtes parti de la partition d'orchestre?
J'ai utilisé tout le matériau que je pouvais. Donc il y a l'original pour orchestre, il y a la transcription pour piano seul, qui est un peu en kit d'ailleurs. C'est deux lignes plus, de temps en temps, une ligne supplémentaire que vous pouvez rajouter un peu comme vous vous débrouillez. Et la transcription pour deux pianos qui est quelque part plus fixe et plus aboutie. Et voilà, et donc j'ai beaucoup aimé jongler entre toutes ces sources. Et puis en même temps, par moment, on ne peut pas vraiment non plus considérer ou choisir une source, mais il faut inventer autre chose.
Je peux vous confirmer que toutes les notes y sont. Il n'y a aucune note dans ces transcriptions. Il faut, d'ailleurs, même en répétition, quand des fois c'est presque injouable pour Antoine et moi, Boris tient quand même à ce qu'on fasse l'impossible pour rendre hommage au compositeur et jouer toutes les notes dans l'harmonie.
Je sais que rien n'est impossible pour toi.
Vous l'aviez d'ailleurs précisé à l'attention du public tout à l'heure, oui. Avant de jouer ces deux pièces. Continuons avec la musique française. Il y a 48 heures, Edgar Moreau et David Kadouch jouaient la merveilleuse sonate pour violoncelle et piano de Rita Stroll, qui a été vraiment une belle découverte. Aujourd'hui, vous avez sans doute fait découvrir aux auditeurs, aux festivaliers, le trio de Cécile Chaminade, que vous avez déjà enregistré. Cet intérêt pour la musique française, vous l'avez en travaillant avec le Palazzetto Bruzane?
Alors effectivement, le Palazzetto Bruzane nous avons travaillé en collaboration avec lui, nous a soutenus pendant un bon bout de temps, et ça a été l'occasion de découvrir des compositeurs et des compositrices comme Chaminade, qui étaient pour nous totalement inconnus, et que nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir, à essayer, etc. Alors on a reçu des tas de partitions, des brouettes de partitions, et là, c'était la partie drôle d'ailleurs de faire un peu notre marché là-dedans, avec des impressions, des petites notes, des chœurs, des croix, des choses comme ça. Et il y a quelques auteurs dont je tairai le nom, qu'on a refusé de jouer, et puis d'autres qui nous ont vraiment passionnés, dont Chaminade, le Normand, entre autres. Et son tempérament, Cécile Chaminade, est vraiment quelque chose de particulier. C'est très incandescent, il y a beaucoup de feu, c'est très âpre. Et ça tranche un petit peu d'ailleurs par rapport au reste de sa musique, qui est plus salonard, plus gentil quelque part. Mais là, je crois qu'il y a un contexte particulier à cette œuvre qui fait que, en tout cas, elle dégage des sentiments assez furieux, qui vont jusqu'au furieux.
Alors pour la petite histoire, parce qu'il se doit d'être racontée. Pareil, je n'y suis pour rien. Nous avons donné cette pièce en concert il y a quelques années au Théâtre des Bouffes du Nord, et dans le programme était inscrit qu'elle avait été écrite à la suite d'une rupture amoureuse avec Paul Landowski, qui est mon arrière-arrière-grand-oncle et qui était son médecin.
Le scoop. Ça y est,
voilà.
C'est sorti. Finalement, Antoine,
tout
ça,
c'est
bien
une affaire
ce
de
soir.
Famille.
Oui, alors, je joue maintenant cette œuvre de façon extrêmement différente par rapport à avant.
Avec beaucoup de culpabilité.
Voilà. Ben non, parce que
je le sens d'ailleurs.
Donc, il n'y aurait pas eu ce trio. Donc
c'est voilà. Un mal pour un bien.
Merci à ton grand-père.
Arrière-arrière-grand-oncle. Oui, bon.
Mais c'est une femme qui a de la poigne, qui a du caractère. Il n'y a pas beaucoup de femmes compositrices, ça se dit,
connues
à l'époque. Et puis elle écrit, enfin il y a de tout, il y a aussi des moments féminins, mais il y a aussi des moments très masculins, je trouve, dans son écriture. C'est une écriture, je ne sais pas quel mouvement vous allez nous faire écouter.
Le scherzo. Eh ben, on va l'écouter, on écoute tout de suite. Voilà, Triant la mineure, opus 34 de Cécile Chaminade. Vous avez probablement reconnu le générique des Opus Café, mais ce n'est pas la bonne œuvre, puisque le générique, c'est un extrait du trio de Claude Debussy, un trio aussi qu'on entend peu en concert. Voici donc le mouvement final du trio de Cécile Chaminade par le trio Chausson, que nous écoutons immédiatement. Thank you. Le mouvement final du trio en la mineur opus 34 de Cécile Chaminade.
Je pense que Olivier voulait tester vos auditeurs fidèles et voir s'ils ont reconnu qu'il y avait d'abord du Debussy et puis du Chaminade. Mais voilà, donc le Chaminade qui est un allegro energico et qu'aujourd'hui il était très energico.
Vous révélez mes intentions cachées, Léonard. Bien, continuons cette conversation très amicale avec les trois membres du trio Chausson. Vous avez joué aussi en première partie, enfin en première partie, c'est un concert en une seule partie tout à l'heure, Joseph Haydn, que vous avez aussi enregistré. Vous avez enregistré trois trios de Haydn et un trio de Hummel. Oui. Quel plaisir que d'entendre cette musique, quel plaisir sans doute de la jouer aussi.
Ah oui, infiniment, parce qu'Haydn...
Il y a tout.
Comment dire ? Si on le compare à Mozart, il y a quelque chose finalement de moins innocent, peut-être, et auquel du coup on peut un peu plus s'identifier. Enfin, il y a un panorama de la psychologie qui est plus complet, je pense. Et puis il y a surtout un côté très inventif, très joueur, et qui incite aussi à lui emboîter le pas. Donc on a une possibilité qui est très rare d'ornementer, d'improviser des cadences, des choses comme ça, et ce qui fait que chaque expérience et chaque concert est différent, et que en tout cas on essaye de le faire, de pas retomber dans nos habitudes chez ce compositeur.
Antoine, Haydn.
Haydn, c'est pour nous c'est une musique assez très importante, parce que c'est avec ce compositeur qu'on a appris à parler musique, et donc il fait partie vraiment de la base de notre éducation. Moi j'ai un très 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 grand plaisir à jouer les trios, bien que je sois violoncelliste, parce que à cette époque-là, les compositeurs écrivaient une partie de violoncelle la plupart du temps pour doubler la base du piano. Alors avec Haydn, il commence à y avoir de temps en temps à y avoir une petite indépendance, mais je trouve ça vraiment délicieux en fait de varier le phrasé, le son, l'articulation, pour faire ressortir au mieux l'harmonie, la phrase du violon, la mélodie du violon, la main droite du piano. Enfin, moi j'aime énormément jouer Haydn.
Je dirais même qu'avec son absence d'indication précise, finalement Haydn nous fait un cadeau, parce que il doit y avoir autant de versions de Haydn que d'interprétations. c'est vraiment au trio de faire son interprétation, ses nuances, sa conception du discours. Alors bien que on trouve des éditions reconnues qui ne sont pas des éditions Urtex, comme Peters, comme Breitkopf, dans lesquelles il y a un peu de bon sens, on va dire, pour ce qui est des nuances au minimum, mais on peut tout à fait s'en écarter, et je crois que c'est un petit peu ce qu'on a fait dans ce disque.
J'ai toujours pensé que d'apprécier la qualité d'un instrumentiste ou d'apprécier la qualité d'un ensemble, c'était de leur imposer de jouer Mozart ou Haydn, Léonard.
Ben, c'est très différent déjà, Mozart et Haydn. Nous, je vous avoue que on a joué beaucoup de Haydn, mais très peu de Mozart. Je ne dirai pas pourquoi. Non, je plaisante. Mais Haydn, comment vous dire, Haydn, c'est voilà, comme vous disiez, c'est plein d'inventivité, de surprises. Donc elles sont là pour le public, mais pour nous aussi, même si on les connaît, c'est un peu comme une histoire qui nous surprend chaque fois. Donc on doit se réinventer et le réécouter comme si c'était une première fois. Et c'est pas toujours évident, enfin je parle pour moi, je trouve que peut-être parce qu'on commence souvent les concerts avec du Haydn, et en fait Haydn demande une rigueur et à la fois une liberté qui sont très contradictoires. Donc pour commencer un concert avec ces deux extrêmes, c'est pas toujours évident d'obtenir ça de la première seconde. Mais après, dans un concert, on évolue, c'est comme une histoire, chaque concert est une petite vie en soi. Mozart, on n'a pas encore joué de Mozart, donc j'espère avoir l'occasion de jouer, enfin je veux dire en trio, jouer du Mozart dans le futur.
Eh bien, on va vous écouter jouer Haydn, le presto du trio en ut majeur, au Bocken 15-27, Joseph Haydn, le trio Chausson. Thank you. Le presto du trio en ut majeur au Bocken 15-27 de Joseph Haydn par le trio Chausson. C'est d'ailleurs avec ce trio que vous avez joué tout à l'heure. Au Coiffus, vous faisiez d'ailleurs des commentaires en écoutant votre enregistrement, Léonard.
Oh, je laisse l'honneur aux deux autres d'abord parce que je parle trop, je vais dire des bêtises.
C'est une matière vivante, hein, donc forcément le temps passe et puis... Il y a des options qui... Déjà, d'un jour sur l'autre, il y a des options qui changent. Donc forcément, en quelques années, c'est encore plus visible.
Antoine ?
Rien à ajouter à ce que vient de dire Olivier. C'est ça, les commentaires. On était en train de comparer ce que nous faisions à l'époque et ce que nous faisons aujourd'hui. Et voilà, donc
qui sera différent de ce que vous ferez demain.
Et bien, heureusement.
Et après, tout à fait. On joue différemment quand on enregistre qu'en concert. Je pense que... En concert, on vit la musique différemment que dans le studio. Donc là, aujourd'hui, c'était très, très vivant. On le revit en l'écoutant. Et c'est vrai qu'on peut rigoler des fois de certaines différences d'un concert à l'autre, dans l'enregistrement.
Dernière question, quel sera l'été du trio Chausson, Boris ou Antoine?
Oui, en fait, là, on vient de terminer une très, très, très grosse période de concerts. Nous prenons un petit peu de liberté par rapport au trio là pendant le mois de juillet avec différents concerts. Nous nous trompons les uns les autres voilà, pendant le mois de juillet.
Nous ne sommes pas
un couple mais un trouple très très
libre.
Et nous retrouvons intense.
Et nous voilà. et nous nous retrouvons le 4 août pour un concert au festival Musique en Bauge sur les hauteurs d'Aix-les-Bains.
Avec une nouvelle transcription.
Avec de nouvelles transcriptions, tout à fait. Ouais.
Voilà. Une idée peut-être ?
Oui, bah, c'est Uranus de Holst que j'avais à une époque transcrit pour trio et orgue. Et donc maintenant, c'est la version pour trio seul.
Bien.
Il y a un peu plus de travail pour chacun.
Eh bien, en tout cas, merci d'être passé à ce micro d'Accent 4.
Merci à vous.
Merci. Bonnes vacances à vous tous avant une reprise le 4 août. La fin de l'abolition des privilèges, d'ailleurs, le 4 août.
Tout à fait.
Merci à François d'avoir réalisé cette émission et puis on se retrouve demain avec un pianiste coréen, Seong Jin Cho.
Opus, Festival international de musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissin. Une émission d'Accent 4, en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar et avec le soutien du CICS Tarpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.